êtes toujours à l'écoute de RFI, il est 14h en temps universel, 15h à Paris, le journal.
Pierre Boudias.
Ligne directe établie entre Donald Trump et Vladimir Poutine, c'est ce qu'assure le président américain qui évoque un appel téléphonique avec son homologue russe. Il assure qu'il dispose d'un plan concret pour mettre fin au conflit ukrainien. 14 millions d'Équatoriens appelés aux urnes ce dimanche, élection présidentielle en forme de duel entre le chef de l'État sortant et sa rivale de gauche. Le pays confronté à une double crise sécuritaire et économique. Le président brésilien va-t-il perdre son titre de défenseur de l'Amazonie ? Lula provoque la polémique ces derniers jours en soutenant un important projet pétrolier au cœur de la forêt vierge, précision à suivre. Et puis l'avenir de l'IA se discute à Paris demain, sommet des chefs d'État et de dirigeants d'entreprise dans la capitale française. Une technologie déjà omniprésente et pourtant loin de convaincre tous les Parisiens, vous l'entendrez. Mais avant de développer ses titres de la voile, pour un hommage à la Benjamine du Vendée Globe, la course en solitaire sans escale et sans assistante, c'est un Everest des mers que Violette d'Orange vient de boucler ce dimanche à 23 ans, une première pour la Benjamine de l'épreuve. Un tour du monde achevé en près de 91 jours avec ses vidéos où elle partageait ses frayeurs après une montée au mât pour réparer une avarie, ses joies à l'ouverture de ses cadeaux de Noël ou lors de ses repas. La Charentaise a généré un véritable raz-de-marée médiatique sur cette course unique. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont mis à la suivre sur les réseaux sociaux. Violette d'Orange termine à la 25e place, mais sans doute à la première pour les milliers de fans venus l'accueillir au Sable d'Olonne. Et elle n'en revenait pas, écoutez-la.
Je pense que je suis encore sous le choc, je suis sidérée du monde qu'il y avait, c'était incroyable. J'ai énormément d'émotions, je sais pas où je suis, j'ai l'impression d'être en dehors de mon corps. Je suis tellement heureuse d'avoir réussi ce tour du monde. Je suis allée au bout de mon rêve, je suis allée au bout de cette aventure et je sais pas, c'est incroyable.
La skippeuse Violette d'Orange depuis les Sables d'Olonne. Dans le reste de l'actualité, la Russie revendique la prise d'un nouveau village dans l'est de l'Ukraine. Les forces russes poursuivent leur stratégie de grignotage dans le Donbass avant d'éventuels pourparlers de paix. Et Donald Trump s'est engagé durant la campagne présidentielle américaine à mettre un terme à ce conflit rapidement. Il n'a cependant toujours pas dévoilé de plan précis. Et après avoir annoncé qu'il rencontrait Volodymyr Zelensky prochainement, le chef de l'État américain affirme qu'il s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine, une information que le Kremlin refuse de commenter. Anastasia Becchio.
La Russie maintient l'ambiguïté. Le porte-parole du Kremlin ne peut ni confirmer ni infirmer cette information selon ses propos rapportés par l'agence Interfax. Dmitri Peskov soutient qu'il a pu ne pas être tenu au courant. Au fur et à mesure que l'administration à Washington développe son travail, de nombreuses communications différentes se produisent et parmi la multiplicité de canaux, je peux personnellement ne pas savoir quelque chose, dit ce très proche collaborateur du chef du Kremlin. S'il était confirmé, cet entretien serait le premier depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Dans une interview accordée au New York Post à bord de son avion Air Force One vendredi, le président américain soutient qu'il a parlé au téléphone avec Vladimir Poutine, qui lui aurait confié qu'il voulait, je cite, « que les gens cessent de mourir ». Donald Trump a esquivé lorsque la journaliste lui a demandé combien de fois il avait appelé Vladimir Poutine. Il en a profité pour répéter qu'il entretenait une bonne relation avec son homologue russe. En novembre, le Washington Post avait fait état d'une conversation entre le président russe et Donald Trump dans la foulée de sa victoire. Le Kremlin avait alors nié l'existence d'un tel coup de fil.
Anastasia Becchio. La Ligue arabe dénonce les propos de Benjamin Netanyahou évoquant une possible création d'un État palestinien sur le territoire de l'Arabie saoudite. Une déconnexion totale de la réalité selon l'organisation, alors que le premier ministre israélien assure dans la même interview être prêt à mettre en œuvre le plan de Donald Trump pour Gaza, une expulsion forcée des Palestiniens qui sera au cœur d'une réunion d'urgence des pays arabes organisée à la fin du mois par l'Égypte. L'occasion pour les États membres de redire leur ferme opposition à tout déplacement des populations hors de l'enclave palestinienne. Jour de vote en Équateur, les bureaux ont ouvert à midi, temps universel dans le pays considéré comme l'un des plus dangereux d'Amérique latine, avec un taux de mort violente et d'assassinat de 38 pour 100 000 habitants. Si l'insécurité a occupé une bonne partie du duel entre les deux favoris, le sortant Daniel Noboa et sa rivale de gauche, Luisa González, la question économique sera également centrale dans le résultat. Le pays est en effet dans une situation difficile et le prochain chef d'État aura peu de moyens financiers pour faire face à des défis complexes. Explication depuis Quito de notre correspondant Éric Sanson.
Dans son bureau de l'université San Francisco de Quito, l'ancienne ministre de l'économie, Magdalena Barreiro, ne respire pas l'optimisme. Pour elle, les promesses électorales des candidats montrent qu'ils ne connaissent pas la réalité économique de l'Équateur.
C'est une situation de mucha illiquidez.
Le pays manque de liquidités. En plus, la structure du budget est inflexible, avec des dépenses pour la santé, l'éducation et la sécurité qui ne peuvent pratiquement pas être réduites.
Bien que l'activité minière et pétrolière soit encore attractive pour les grandes entreprises qui peuvent se protéger de l'extorsion, les autres secteurs économiques sont en difficulté, notamment le tourisme qui souffre de l'insécurité et du manque d'infrastructures. L'Équateur n'a reçu l'an dernier que 200 millions de dollars d'investissements étrangers contre 11 milliards pour son voisin péruvien, une réalité invisible durant la campagne.
Nous, les Équatoriens, sommes mythophiles. On aime quand on nous ment. Tout candidat offrant d'augmenter la dépense publique et de mettre fin à l'insécurité ment en toute connaissance de cause.
Ce qui à terme peut menacer la dollarisation, pourtant plébiscitée par la population. Eric Sanson, Quito, RFI.
RFI, il est 11h06 à Brasilia, le Brésil où le président Lula n'en démord pas. Il continue de défendre un vaste projet d'exploration de pétrole en Amazonie. Une volonté très critiquée par les associations écologistes alors que le pays s'apprête à accueillir la COP30 au mois de novembre au cœur de la forêt vierge. Et le sujet fait polémique dans le pays cette semaine. Explication de Sarah Cozzolino.
Y a-t-il une contradiction entre la volonté affichée du gouvernement Lula de préserver l'Amazonie et d'exploiter en même temps le pétrole dans la région ? Pas du tout, selon le président brésilien.
Nous voulons le pétrole car il va encore exister longtemps. Il va nous servir à financer la transition énergétique qui va nous coûter très cher.
La région en question, connue sous le nom de Marge Équatoriale, s'étend sur 6 états du Rio Grande do Norte à l'Amapá, 350 000 km² qui pourraient rapporter 10 milliards de barils de pétrole au Brésil. Le géant étatique Petrobras tente depuis 2020 d'obtenir un accord de l'Institut brésilien de l'environnement, l'IBAMA. C'est le nouveau mandat d'un représentant de l'AMAPA à la présidence du Sénat qui a permis d'accélérer les discussions sur le sujet. Des pressions politiques qui vont à l'encontre de l'objectif de réduction des gaz à effet de serre, selon Carlos Noble, climatologue.
Ouvrir de nouvelles exploitations n'a aucun sens dans aucun endroit du monde. Au contraire, il nous faut interrompre les exploitations de mines de charbon, de pétrole et de gaz naturel qui existent.
Huitième producteur de pétrole au monde, le Brésil sera scruté de près par les défenseurs de l'environnement à moins d'un an de la conférence sur le climat. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis changer les mentalités sur l'intelligence artificielle. C'est un des nombreux enjeux du sommet international pour l'action sur l'IA qui débute demain à Paris. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement réunis pour évoquer l'avenir d'une intelligence artificielle au développement hyper rapide. Dans les rues de la capitale française, les avis sont encore partagés sur cette révolution technologique. C'est ce qu'a pu constater Oriane Gendreau.
À 50 ans, Henri est plutôt optimiste. Pour lui, l'intelligence artificielle a beaucoup d'atouts.
Il y a le bon sens et il y a le mauvais. Et quand on va l'appliquer à l'aspect médical, à l'aspect bien commun, c'est quelque chose qui est super.
Brigitte est à la retraite depuis 5 ans et elle non plus n'est pas inquiète.
Je pense que c'est comme beaucoup de technologies nouvelles. On risque d'avoir peur au début et puis se rendre compte que ça dégage de tâches consommatrices de temps et probablement difficiles.
Pour Kylian, impossible d'échapper à l'intelligence artificielle. Il s'en sert tous les jours au travail, notamment pour résumer des textes compliqués à des enfants. S'adapter à cette nouvelle technologie, c'est donc pour lui une fatalité.
C'est vrai que moi au début, j'étais pas très avenant par rapport à ça d'un point de vue écologique. Mais après, en fait, je pense que c'est important d'apprendre à travailler avec ces outils.
Cette omniprésence de l'IA fait peur. En tout cas, elle fait peur à Émilie et Richard. Pour les deux riverains, elle permet un peu trop facilement de manipuler les foules et les images.
De la manipulation de masse par les réponses, notamment sur les recherches internet, par exemple.
J'ai peur qu'on prenne mon identité. Vous voyez quelqu'un qui parle, mais en réalité, c'est pas lui qui parle. C'est détourné des gens mal intentionnés.
Rassurer les sceptiques et limiter les dérives de l'intelligence artificielle, ce sont donc deux des objectifs du sommet international de l'IA de cette semaine.
Oriane Gendreau, et puis terminons cette édition comme nous l'avons commencé par un mot de sport et l'événement de cette nuit se déroulera à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis, la Louisiane qui accueille le Super Bowl, la finale de la Ligue de football américaine qui oppose les Kansas City Chiefs aux Eagles de Philadelphie, tout aussi attendu que la rencontre en elle-même. Le concert à la mi-temps sera assuré par le rappeur Kendrick Lamar. Coup d'envoi de ce match à 23h30, temps universel. Il est presque 15h10 ici à Paris. C'est la fin de ce journal. Bonne suite des programmes à l'écoute de la Radio du Monde.